Chapitre 18. Le bataillon commençait à descendre la colline en face de Leipzig pour rejoindre notre division, lorsque nous vîmes un officier d'état-major traverser la grande prairie au-dessous et venir de notre côté ventre à terre. En 2 minutes, il fut près de nous. Le colonel Lorrain courut à sa rencontre. Ils échangèrent quelques mots, puis l'officier repartit. Des centaines d'autres allaient ainsi dans la plaine porter des ordres. « Par file à droite !» cria le colonel, et nous prîmes la direction d'un bois en arrière qui longe la route de Douben environ 1/2 lieue. C'était une forêt de hêtres, mais il s'y trouvait aussi des bouleaux et des chênes. Une fois sur la lisière, on nous fit renouveler l'amorce de nos fusils et le bataillon fut déployé dans les bois en tirailleurs. Nous étions échelonnés à 25 pas l'un de l'autre, et nous avancions en ouvrant les yeux comme on peut s'imaginer. Le sergent Pinto disait à chaque minute « Mettez-vous à couvert !» Mais il n'avait pas besoin de tant nous prévenir. Chacun dressait l'oreille et se dépêchait d'attraper un gros arbre pour regarder à son aise avant d'aller plus loin. À quoi pourtant des gens paisibles peuvent être exposés dans la vie? Enfin, nous marchions ainsi depuis 10 minutes et, comme on ne voyait rien, cela commençait à nous rendre de la confiance. Lorsqu'un coup de feu part, et puis encore un, puis deux, 3, 6, de tous les côtés, le long de notre ligne, et dans le même instant, je vois mon camarade de gauche qui tombe, en cherchant à se retenir contre un arbre. Cela me réveille. Je regarde de l'autre côté, et qu'est-ce que je découvre, à 50 ou 60 pas? Un vieux soldat prussien, avec son petit chapeau à chaînette, le coude replié, ses grosses moustaches rousses penchées sur la batterie de son fusil, qui m'ajuste en clignant de l'œil. Je me baisse comme le vent. À la même seconde, j'entends la détonation, et quelque chose craque sur ma tête. J'avais mon fourniment, la brosse, le peigne et le mouchoir dans mon saco. La balle de ce gueux avait tout cassé. Je me sentais tout froid. « Tu viens d'en échapper d'une belle !» m'écria le sergent en se mettant à courir. Et moi, qui ne voulais pas rester seul dans un pareil endroit, je le suivis bien vite. Le lieutenant Bretonville, son sabre sous le bras, répétait « En avant ! En avant !» Plus loin sur la droite, on tirait toujours. Mais voilà que nous arrivons au bord d'une clairière où se trouvaient 5 ou 6 gros troncs de chênes abattus, une petite mare pleine de hautes herbes et pas un seul arbre pour nous couvrir. Malgré cela, plusieurs s'avançaient hardiment quand le sergent nous dit « Halte ! Les Prussiens sont bien sûr en embuscade aux environs. Ouvrons l'œil. » Il avait à peine dit cela qu'une dizaine de balles sifflaient dans les branches et que les coups retentissaient. En même temps, un tas de Prussiens allongeait les jambes et entrait plus loin dans le fourré. « Les voilà partis, en route !» dit Pinto. Mais le coup de fusil de mon saco m'avait rendu bien attentif. Je voyais en quelque sorte à travers les arbres, et comme le sergent voulait traverser la clairière, je le retins par le bras en lui montrant le bout d'un fusil qui dépassait une grosse broussaille. De l'autre côté de la mare, à 100 pas devant nous. Les camarades, s'étant approchés, le virent aussi. C'est pourquoi le sergent dit à voix basse « Toi, Bertha, reste ici. Ne le perds pas de vue. Nous autres, nous allons tourner la position. » Aussitôt, ils s'éloignèrent à droite et à gauche, et moi, la crosse à l'épaule, derrière mon arbre, j'attendis comme un chasseur à l'affût. Au bout de 2 ou 3 minutes, le Prussien, qui n'entendait plus rien, se leva doucement. Il était tout jeune, avec de petites moustaches blondes et une haute taille mince bien serrée. J'aurais pu l'abattre, pour sûr, mais cela me fit une telle impression de tuer cet homme ainsi découvert que j'en tremblais. Tout à coup, il m'aperçut et sauta de côté. Alors, je lâchai mon coup et je respirai de bon cœur en voyant qu'il se sauvait à travers le taillis comme un cerf. En même temps, 5 ou 6 coups de fusil partirent à droite et à gauche. Le sergent Pinto, Zébédé, Klipfel et les autres passèrent d'un trait, et 100 pas plus loin, nous trouvâmes ce jeune Prussien par terre, la bouche pleine de sang. Il nous regardait tout effrayé, en levant le bras comme pour parer les coups de baïonnette. Le sergent lui dit d'un air joyeux « Va, ne crains rien, tu as eu ton compte !» Personne n'avait envie de l'achever. Seulement, Klipfel prit une belle pipe qui sortait de sa poche derrière en disant « Depuis longtemps, je voulais avoir une pipe. En voilà pourtant une. »« Fille Klipfel !» s'écria Pinto, vraiment indigné. « Voulez-vous bien remettre cette pipe ? C'est bon pour les Cosaques de dépouiller les blessés. Le soldat français ne connaît que l'honneur. » Klipfel jeta la pipe, et finalement nous repartîmes de là sans tourner la tête. Nous arrivâmes au bout de cette petite forêt qui s'arrêtait aux trois quarts de la côte. Des broussailles assez touffues s'étendaient encore à 200 pas jusqu'au haut. Les Prussiens que nous avions poursuivis se trouvaient cachés là-dedans. On les voyait se relever de tous les côtés pour tirer sur nous. Puis, aussitôt, après, ils se baissaient. Nous aurions bien pu rester là tranquillement, puisque nous avions l'ordre d'occuper le bois. Ces broussailles ne nous regardaient pas. Derrière les arbres où nous étions, les coups de fusil des Prussiens ne nous auraient pas fait de mal. Nous entendions de l'autre côté de la côte une bataille terrible. Les coups de canon se suivaient, à la file, étonnaient, quelquefois avec ensemble, comme un orage. C'était une raison de plus pour rester. Mais nos officiers, s'étant réunis, décidèrent que les broussailles faisaient partie de la forêt et qu'il fallait chasser les Prussiens jusque sur la côte. Cela fut cause que bien des gens perdirent la vie en cet endroit. Nous reçûmes donc l'ordre de chasser les tirailleurs ennemis. Et comme ils tiraient, à mesure que nous approchions et qu'ils se cachaient ensuite, tout le monde se mit à courir sur eux pour les empêcher de recharger. Nos officiers couraient aussi, pleins d'ardeur. Nous pensions qu'au haut de la colline, les broussailles finiraient, et qu'alors nous fusillerons les Prussiens par douzaines. Mais dans le moment où nous arrivons en haut, tout essoufflé, voilà que le vieux Pinto s'écrie. « Les hussards !» Je lève la tête, et je vois des colbacks qui montent et qui grandissent derrière cette espèce de dodane. Ils arrivaient sur nous comme le vent. À peine avais-je vu cela que, sans réfléchir, je me retourne et je commence à redescendre, en faisant des bonds de 15 pieds, malgré la fatigue, malgré mon sac et malgré tout. Je voyais devant moi le sergent Pinto, Zébédé et les autres qui se dépêchaient et qui sautaient en allongeant les jambes tant qu'ils pouvaient. Derrière, les hussards en masse faisaient un tel bruit que cela vous donnait la chair de poule. Les officiers commandaient en allemand, les chevaux soufflaient, les fourreaux de sabre sonnaient contre les bottes et la terre tremblait. J'avais pris le chemin le plus court pour arriver au bois. Je croyais presque y être quand, tout près de la lisière, je rencontre un de ces grands fossés où les paysans vont chercher de la terre glaise pour bâtir. Il avait plus de 20 pieds de large et 40 ou 50 de long. La pluie qui tombait depuis quelques jours en rendait les bords très glissants. Mais comme j'entendais les chevaux souffler de plus en plus et que les cheveux m'en dressaient sur la nuque, sans faire attention à rien, je prends un élan et je tombe dans ce trou sur les reins. La giberne et la capote retroussées presque par-dessus la tête. Un autre fusilier de ma compagnie était déjà là, qui se relevait. Il avait aussi voulu sauter. Dans la même seconde, deux hussards, lancés à fond de train, glissaient le long de cette pente grasse sur la croupe de leurs chevaux. Le premier de ces hussards, la figure toute rouge, allongea d'abord un coup de sabre sur l'oreille de mon pauvre camarade en jurant comme un possédé. Et comme il relevait le bras pour l'achever, je lui enfonçais ma baïonnette dans le côté de toutes mes forces. Mais en même temps, l'autre hussard me donnait sur l'épaule un coup qui m'aurait fendu en deux sans l'épaulette. Il allait me percer, si, par bonheur, un coup de fusil d'en haut ne lui avait cassé la tête. Je regardai, et je vis un de nos soldats enfoncé dans la terre glaise jusqu'à mi-jambe. Il avait entendu les hennissements des chevaux et les jurements des hussards, et s'était avancé jusqu'au bord du trou pour voir ce qui se passait. « Eh bien, camarade, me dit-il en riant, il était temps. » Je n'avais pas la force de lui répondre. Je tremblais comme une feuille. Il ôta sa baïonnette et me tendit le bout de son fusil pour m'aider à remonter. Alors, je pris la main de ce soldat et je lui dis « Vous m'avez sauvé. Comment vous appelez-vous » Il me dit que son nom était Jean-Pierre Vincent. J'ai souvent pensé depuis que, s'il m'arrivait de rencontrer cet homme, je serais heureux de lui rendre service. Mais le surlendemain eut lieu la seconde bataille de Leipzig, ensuite la retraite de Hanau, et je ne l'ai jamais revu. Le sergent Pinto et Zébédé vinrent un instant plus tard. Zébédé me dit « Nous avons eu de la chance cette fois, nous deux, Joseph. Nous sommes les derniers Falsbourgeois au bataillon, à cette heure. » Klipfel vient d'être haché par les hussards. « Tu l'as vu ?» lui dis-je tout pâle. « Oui, il a reçu plus de 20 coups de sabre. Il criait « Zébédé, Zébédé !» Un instant après, il ajouta « C'est terrible tout de même d'entendre appeler au secours un vieux camarade d'enfance sans pouvoir l'aider. » Mais ils étaient trop, ils l'entouraient. Cela nous rendit tristes, et les idées de pays nous revinrent encore une fois. Je me figurais la grand-mère Klipfel lorsqu'elle apprendrait la nouvelle, et cette pensée me fit songer à Catherine. Depuis la charge des hussards jusqu'à la nuit, le bataillon resta dans la même position, à tirailler contre les Prussiens. Nous les empêchions d'occuper le bois. Mais ils nous empêchaient de monter sur la côte. Nous avons su le lendemain pourquoi. Cette côte domine tout le cours de la Paarta, et la grande canonnade que nous entendions venait de la division Dombrowski, qui attaquait l'aile gauche de l'armée prussienne et qui voulait porter secours au général Marmont à Mokern. Là, 20 000 Français, postés sur un ravin, arrêtaient les 80 000 hommes de Blücher. Et du côté de Wachau, 500 000 Français livraient bataille à 200 000 Autrichiens et Russes. Plus de 1500 pièces de canon tonnaient. Notre pauvre petite fusillade sur la côte de Witteridge était comme le bourdonnement d'une abeille au milieu de l'orage. Et même quelquefois, nous cessions de tirer de part et d'autre pour écouter. Cela me paraissait quelque chose d'épouvantable, et pour ainsi dire de surnaturel. L'air était plein de fumée de poudre, la terre tremblait sous nos pieds, les vieux soldats comme Pinto disaient qu'ils n'avaient jamais rien entendu de pareil. Vers 6 heures, un officier d'état-major remonta sur notre gauche, porter un ordre au colonel Lorrain, et presque aussitôt, on sonna la retraite. Le bataillon avait perdu 60 hommes par la charge des hussards prussiens et la fusillade. Il faisait nuit lorsque nous sortîmes de la forêt, et, sur le bord de la Paarta, parmi les caissons, les convois de toutes sortes, les corps d'armée en retraite, les détachements, les voitures de blessés qui défilaient sur deux ponts, il nous fallut attendre plus de 2 heures pour arriver à notre tour. Le ciel était sombre. La canonnade grondait encore de loin en loin, mais les 3 batailles étaient finies. On entendait bien dire que nous avions battu les Autrichiens et les Russes à Wachau, de l'autre côté de Leipzig, mais ceux qui revenaient de Mokern étaient sombres. Personne ne criait « Vive l'Empereur !» comme après une victoire. Une fois sur l'autre rive, le bataillon descendit la Paarta d'une bonne demi-lieue jusqu'au village de Schönfeld. La nuit était humide. Nous marchions d'un pas lourd, le fusil sur l'épaule, les yeux fermés par le sommeil et la tête penchée. Derrière nous, le grand défilé des canons, des caissons, des bagages et des troupes en retraite de Mokern prolongeait son roulement sourd. Et par instant, les cris des soldats du train et des conducteurs d'artillerie pour se faire place s'élevaient au-dessus du tumulte. Mais ces bruits s'affaiblissaient insensiblement et nous arrivâmes enfin près d'un cimetière où l'on nous fit rompre les rangs et mettre les fusils en faisceau. Alors seulement, je relevai la tête et je reconnus Schönfeld au clair de lune. Combien de fois j'étais venu manger là de bonnes fritures et boire du vin blanc avec Zimmer au petit bouchon de la Gerbe d'Or, sous la treille du père Winter, quand le soleil chauffait l'air et que la verdure brillait autour de nous. Ces temps étaient passés. On plaça les sentinelles. Quelques hommes entrèrent au village chercher du bois et des vivres. Je m'assis contre le mur du cimetière et je m'endormis. Vers 3 heures du matin, je fus éveillé. « Joseph, me disait Zébédé, viens donc te chauffer. Si tu restes là, tu risques d'attraper les fièvres. » Je me levai, comme ivre de fatigue et de souffrance. Une petite pluie fine tremblotait dans l'air. Mon camarade m'entraîna près du feu, qui fumait sous la pluie. Ce feu n'était que pour la vue. Il ne donnait point de chaleur. Mais Zébédé, m'ayant fait boire une goutte d'eau-de-vie, je me sentis un peu moins froid, et je regardai les feux du bivac qui brillaient de l'autre côté de la Paarta. « Les Prussiens se chauffent, me disait Bédé. Ils sont maintenant dans notre bois. » « Oui, lui répondis-je, et le pauvre Klipfel est aussi là-bas. Il n'a plus froid, lui. » Je claquai des dents. Ces paroles nous rendirent tristes. Quelques instants après, Zébédé me demanda. « Te rappelles-tu, Joseph, le ruban noir qu'il avait à son chapeau le jour de la conscription ?» Il criait. « Nous sommes tous condamnés à mort, comme ceux de la Russie. Je veux un ruban noir. Il faut porter notre deuil. » et son petit frère disait « Non, Jacob, je ne veux pas !» Il pleurait, mais Klipfel mit tout de même le ruban. Il avait vu les hussards dans un rêve. À mesure que Zébédée parlait, je me rappelais ces choses, et je voyais aussi ce gueux de pinacle sur la place de l'hôtel de ville, qui me criait en agitant un ruban noir au-dessus de sa tête. « Hé, boiteux, il te faut un beau ruban à toi. Le ruban de ceux qui gagnent arrive !» Cette idée, avec le froid terrible qui m'entrait jusque dans la moelle, me faisait frémir. Je pensais « Tu n'en reviendras pas. Pinacle avait raison. C'est fini. » Je songeais à Catherine, à la tante Grédel, au bon monsieur Goulden, et je maudissais ceux qui m'avaient forcé de venir là. Sur les 4 heures du matin, comme le jour commençait à blanchir le ciel, quelques voitures de vivres arrivèrent. On nous fit la distribution du pain, et nous reçûmes aussi de l'eau-de-vie et de la viande. La pluie avait cessé. Nous fîmes la soupe en cet endroit, mais rien ne pouvait me réchauffer. C'est là que j'attrapais les fièvres. J'avais froid à l'intérieur et mon corps brûlait. Je n'étais pas le seul au bataillon dans cet état. Les 3/4 souffraient et dépérissaient aussi. Depuis un mois, ceux qui ne pouvaient plus marcher s'étendaient par terre en pleurant et appelaient leur mère comme de petits enfants. Cela vous déchirait le cœur. La faim, les marches forcées, la pluie et le chagrin de savoir qu'on ne reverra plus son pays ni ce qu'on aime vous causaient cette maladie. Heureusement, les parents ne voient pas leurs enfants périr le long des routes. S'ils les voyaient, ce serait trop terrible. Bien des gens croiraient qu'il n'y a de miséricorde ni sur la terre ni dans le ciel. À mesure que le jour montait, nous découvrions à gauche, de l'autre côté de la rivière et d'un grand ravin rempli de saules et de trembles, les villages brûlés, les tas de morts, les caissons et les canons renversés et la terre ravagée aussi loin que pouvait s'étendre la vue sur les routes de Hall, de Linnental et de Dulwich. C'était pire qu'à Lutzen. Nous voyions aussi les Prussiens se déployer dans cette direction et s'avancer par milliers sur le champ de bataille. Ils allaient donner la main aux Autrichiens et aux Russes et fermer le grand cercle autour de nous. Personne maintenant ne pouvait les en empêcher, d'autant plus que Bernadotte et le général russe Ben Jungsen, restés en arrière, arrivaient avec 120 000 hommes de troupes fraîches. Ainsi, notre armée, après avoir livré 3 batailles en un seul jour et réduite à 130 000 combattants, allait être prise dans un cercle de 300 000 baïonnettes, sans compter 50 000 chevaux et 1200 canons. De Schönfeld, le bataillon se remit en marche pour rejoindre la division à Kolgarten. Sur toute la route, on voyait s'écouler lentement les convois de blessés. Toutes les charrettes du pays avaient été mises en réquisition pour ce service, et, dans les intervalles, marchaient encore des centaines de malheureux, les bras en écharpe, la figure bandée, pâle, abattu, à demi-mort. Tout ce qui pouvait se traîner ne montait pas en charrette et tâchait pourtant de gagner un hôpital. Nous avions 1000 peines à traverser cet encombrement, lorsque tout à coup, en approchant de Kolgarten, une 20aine de hussards, arrivant ventre à terre et le pistolet levé, firent rebrousser la foule à droite et à gauche dans les champs. Ils criaient d'une voix éclatante « L'empereur ! L'empereur !» Aussitôt, le bataillon se rangea, présentant les armes au bas de la chaussée, et quelques secondes après, les grenadiers à cheval de la garde, de véritables géants avec leurs grandes bottes et leurs immenses bonnets à poils qui descendaient jusqu'aux épaules, ne laissant voir que le nez, les yeux et les moustaches, passèrent au galop, la poignée du sabre serrée sur la hanche. Chacun était content de se dire « Ceux-là sont avec nous, ce sont de rudes gaillards !» À peine avait-il défilé que l'état-major parut. Figurez-vous, 150 à 200 généraux, maréchaux, officiers supérieurs ou d'ordonnance, montés sur de véritables serres et tellement couverts de broderies d'or qu'on voyait à peine la couleur de leurs uniformes. Les uns grands et maigres, la mine hautaine, les autres courts, trapus, la face rouge. D'autres, plus jeunes, tout droits sur leurs chevaux, comme des statues, avec des yeux luisants et de grands nez en bec d'aigle. C'était quelque chose de magnifique et de terrible. Mais ce qui me frappa le plus, au milieu de tous ces capitaines qui faisaient trembler l'Europe depuis 20 ans, c'est Napoléon, avec son vieux chapeau et sa redingote grise. Je le vois encore passer devant mes yeux, son large menton serré et le cou dans les épaules. Tout le monde criait « Vive l'empereur !» Mais il n'entendait rien. Il ne faisait pas plus attention à nous qu'à la petite pluie fine qui tremblotait dans l'air. Il regardait, les sourcils froncés, l'armée prussienne s'étendre le long de la Parta pour donner la main aux Autrichiens. Tel je l'ai vu ce jour-là, tel il m'est resté dans l'esprit. Le bataillon s'était remis en marche depuis un quart d'heure, quand Zébédé me dit « Est-ce que tu l'as vu, Joseph ?»« Oui, lui répondis-je, je l'ai vu, et je m'en souviendrai toute ma vie. » « C'est drôle, » fit mon camarade. « On dirait qu'il n'est pas content. » À Wurtchen, le lendemain de la bataille, il paraissait si joyeux en nous entendant crier « Vive l'Empereur !» Et les généraux avaient aussi des figures riantes. Aujourd'hui, tous font des mines du diable. Le capitaine disait pourtant ce matin que nous avons remporté la victoire de l'autre côté de Leipzig. Bien d'autres pensaient la même chose sans rien dire. L'inquiétude vous gagnait. Nous trouvâmes le régiment au bivac, à deux portées de fusil de Kolgarten. Le bataillon prit sa position à droite de la route, sur une colline. Dans toutes les directions, on voyait les feux innombrables des armées dérouler leur fumée dans le ciel. Ils tombaient toujours de la brune, et les hommes, assis sur leurs sacs en face des petits feux, les bras croisés, semblaient tout rêveurs. Les officiers se réunissaient entre eux. On entendait répéter, de tous les côtés, qu'on n'avait jamais vu de guerre pareille. Que c'était une guerre d'extermination, que cela ne faisait rien à l'ennemi d'être battu, et qu'il voulait seulement nous tuer du monde, sachant bien qu'à la fin, il lui resterait 4 ou 5 fois plus d'hommes qu'à nous, et qu'il serait le maître. On disait aussi que l'empereur avait gagné la bataille Wachau contre les Autrichiens et les Russes, mais que cela ne servait à rien, puisque les autres ne s'en allaient pas, et qu'ils attendaient des masses de renforts. Du côté de Mockehorn, on savait que nous avions perdu, malgré la belle défense de Marmont. L'ennemi nous avait écrasés sous le nombre. Nous n'avions eu qu'un seul véritable avantage en ce jour, c'était d'avoir conservé notre point de retraite sur Erfurt, car Gueulet n'avait pu s'emparer des ponts de l'Elster et de la Pleisse. Toute l'armée, depuis le simple soldat jusqu'au maréchal, pensait qu'il fallait battre en retraite le plus tôt possible, et que notre position était très mauvaise. Malheureusement, l'empereur pensait le contraire. Il fallait rester. Tout ce jour du 17, nous demeurâmes en position sans tirer un coup de fusil. Quelques-uns parlaient de l'arrivée du général Régnier avec 16 000 Saxons, mais la défection des Bavarois nous avait appris quelle confiance on pouvait avoir dans nos alliés. Vers le soir, on annonça que l'on commençait à découvrir l'armée du Nord sur le plateau de Breitenfeld. C'était 60 000 hommes de plus pour l'ennemi. Je crois entendre encore les malédictions qui s'élevaient contre Bernadotte, les cris d'indignation de tous ceux qui l'avaient connu simple officier du temps de la République et qui disaient « Il nous doit tout, nous l'avons fait roi de notre propre sang et maintenant il vient nous donner le coup de grâce. » La nuit, il se fit un mouvement général en arrière. Notre armée se resserra de plus en plus autour de Leipzig. Ensuite, tout revint calme. Mais cela ne vous empêchait pas de réfléchir, au contraire. Chacun pensait dans le silence. Que va-t-il arriver demain ? Est-ce qu'à cette même heure, je verrai la lune monter entre les nuages, comme je la vois? Est-ce que les étoiles brilleront encore pour mes yeux? Et quand on regardait, dans la nuit sombre, ce grand cercle de feu qui nous entourait sur une étendue de près de 6 lieues, on s'écriait en soi-même. Maintenant, tout l'univers est contre nous. Tous les peuples demandent notre extermination. Ils ne veulent plus de notre gloire. On songeait ensuite qu'on avait pourtant l'honneur d'être français, et qu'il fallait vaincre ou mourir.